Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, les confidences très surprenantes de l'écrivain Douglas Kennedy. Il publiera demain La Symphonie du hasard, le récit d'une saga familiale très largement inspirée de sa propre histoire. Bernard Lehu l'a rencontré. Parmi les nouveautés au cinéma ce mercredi, Sandrine Bonner à l'affiche de Prendre le large et Nekfeu aux côtés de Catherine Deneuve dans Tout nous sépare de Thierry Cliffa. Ce sont deux des choix de Stéphane Boutsock. Et puis reportage, nous prendrons la direction des Émirats Arabes Unis. Le Louvre Abu Dhabi ouvrira ses portes au public samedi et sera officiellement inauguré aujourd'hui même en présence d'Emmanuel Macron. Monique Younes en revient tout juste. Elle a pu visiter ce nouveau musée en avant-première.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu.
Oui, bonjour.
Ah, bonjour, l'écrivain américain préféré des Français, Douglas Kennedy, sera de retour demain en librairie avec La Symphonie du hasard. Vous l'avez rencontré en avant-première pour Laissez-vous tenter et il s'est confié comme rarement.
Un retour événement, car l'auteur de L'homme qui voulait vivre sa vie publie pour la première fois une trilogie, La Symphonie du hasard, quel beau titre, entre parenthèses, publié chez Belfond, se déclinera en 3 volumes d'ici l'été prochain. Et Douglas Kennedy y déploie une ambition et un souffle absolument inégalé chez lui.
Alors, pour raconter quoi, Bernard ?
Eh bien, une saga familiale, les Burns, dans l'Amérique des années 60 et 70. Pas de grand roman sans bonne première phrase. Celle de la Symphonie du hasard trotte longtemps dans la tête. Toutes les familles sont des sociétés secrètes. Et croyez-moi, au rayon secret, non-dit et mensonge, eh bien, les Burns se révèlent de véritables champions. C'est en compagnie d'Alice, la fille, que nous découvrons, sous un vernis trompeur, l'histoire mouvementée des siens. Une histoire, vous l'avez déjà souligné, Yves, qui doit beaucoup à la propre famille de Douglas Kennedy, a commencé par cette sidérante confession de l'écrivain sur son père.
On a dîné à New York. Après le deuxième gin martini, il a commencé de parler de ses aventures au Chili. Parce qu'il était un cadre des entreprises des mines. Et il me dit, et aussi Douglas, je suis très à côté de le général Pinochet, c'est mon pote. Et puis, en fait, il me dit aussi, depuis 6 ans, j'ai été un agent de CIA. Et j'ai aidé le coup d'État. Et après le troisième gin martini, j'ai découvert que sa maîtresse était la fille du ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d'Augusto Pinochet. À l'époque, j'ai pensé, oh, quelle horreur, mais quelle vie, quel secret. J'en suis sûr, c'est le moment que je suis devenu romancier.
C'est hallucinant.
Je vous l'avais dit.
Pardonnez-moi.
Donc son père agent de la CIA
bien entendu, et pote de Pinochet, oui. Incroyable. Et on retrouve ça dans le livre ?
Évidemment, bien sûr. Et Douglas Kennedy signe une brillante et impitoyable autopsie de la famille et du couple. Ma mère et mon père, lâche sa narratrice Alice, me paraissaient terriblement seuls, surtout lorsqu'ils étaient ensemble.
Pour moi, un des plaisirs de créer un roman comme ça, c'est d'essayer d'explorer pourquoi c'est impossible de trouver une famille stable. Et pourquoi on cherche toujours dans une famille un amour qui existe ou n'existe pas.
Toute la dualité, la complexité de la famille.
Toujours, toujours. Et on lutte avec ça, je suis d'accord avec Freud, et enfin, on lutte avec la famille toute la vie.
Une famille qu'Alice fuit, comme l'a fait aussi Kennedy, en partant à l'université, où elle connaît une émancipation intellectuelle, sentimentale et sexuelle, endeuillée un beau jour par la disparition tragique de son professeur préféré, un drame vécu également par l'écrivain quand il était étudiant.
Ça, c'était aussi un moment, pour moi, un trauma immense. Mais le moment où j'ai commencé de comprendre une vie idéale est un grand mensonge. Ça, c'est un autre truc dans le roman, parce que on voit que Alice commence à comprendre que la vie est cruelle. Mais aussi, c'est quelqu'un avec beaucoup de la persévérance. Ça, c'est un de mes grands thèmes. Je ne suis pas quelqu'un pessimiste ni optimiste, très réaliste. Mais d'après mon expérience dans la vie, la persévérance est fondamentale.
Et alors, l'une des grandes réussites du nouveau Kennedy, la Symphonie du hasard, c'est la façon dont la fresque familiale s'inscrit dans l'histoire de 2 décennies capitales des États-Unis, les années 60 et 70. C'est aussi un roman historique, d'une certaine façon.
Ça, c'était une période quand tout a commencé de changer. Les années 60, Le début, c'était Kennedy, en fait, avec tout l'espoir. Mais aussi, c'était le moment quand les African-Americans ont commencé à dire « Non, on va résister le racisme qui était partout. » Et aussi, c'est le fameux année 68. La guerre vietnamienne, des manifs partout, des émeutes dans des ghettos, les hippies, les drogues, rock'n'roll. Au début des années 70, aussi le féminisme. On a eu l'idée, même si il y avait des problèmes immenses chez nous, que tout était possible. Tout va changer. Et honnêtement, beaucoup de choses ont changé. Ça, c'est la tragédie maintenant, parce qu'on voit Trump a commencé de détruire 45 ans de progrès social.
Alors, où on est aujourd'hui, Douglas Kennedy, avec sa propre histoire familiale, qui inspire donc en grande partie ce livre?
Eh bien, ultime confidence de l'écrivain américain.
Quelque chose de très intéressant. Ma deuxième femme, c'était psychanalyste. Et elle m'a dit une fois, tu écris dans la peau d'une femme pour comprendre ta mère. Parce que ma mère était une femme hyper difficile et maniaco-dépressive. Et fréquemment très, très triste. On écrit pour comprendre, mais aussi, et ça c'est très important, pour comprendre que tout le monde est très complexe. Il n'a pas une famille idéale. J'ai essayé d'être un parent complètement différent que les miennes. En même temps que comme un père, j'ai fait des erreurs. Ça, c'est la vie, même si je suis très proche de mes enfants. Je crie pour comprendre la condition humaine, mais avec l'idée qu'il n'y a pas de réponse pour la condition humaine. Et on va rater des choses tout le temps.
Ben, alors, ce qu'il n'a pas raté, en tout cas, Douglas Kennedy, c'est ce premier tome de sa première trilogie, La Symphonie du hasard, paraît demain chez Belfond. Les tomes 2 et 3 sortiront en mars et en mai. Entretien à retrouver sur RTL.fr.
Merci beaucoup, Bernard Lehu. Alors, on va parler télévision, en tout cas des audiences, oui, avec Médiamétrie et avec vous, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien, qui est en tête hier? La Consolation, le téléfilm de La 3 inspiré du livre de Flavie Flamand. 4 100 000 téléspectateurs et 17% du public sur France 3. C'est un très gros score. Oui. C'est 523 000 personnes de plus que la comédie 20 ans d'écart avec Pierre Ninet et Virginie Efira sur TF1, qui donc rassemble moins de 3 600 000. Troisième position, Cash Investigation. 2 900 000 téléspectateurs environ et 13% du public. C'est pas mal. Et Le Meilleur Pâtissier avec 2 700 000 téléspectateurs et tout à fait dans sa moyenne, même un petit peu à la hausse. Et puis bien sûr, ce soir, en parlant d'M6, c'est Yves, je vous montre la voix. Ou plutôt donc les voix de La Nouvelle Star.
Bah
on
regardera, oui,
on se fera nos commentaires demain.
Moi j'y suis, ça. Voilà. La Nouvelle Star, je suis toujours sur le coup. Dans quelques instants, on parle cinéma. Avec Stéphane Boutsock.
Bah oui, bah oui, il est là, qu'est-ce ça tombe bien.
Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous, à l'oreillette?
Ah, et côté TNT, c'est le monde.
Ah, ben oui, Chaim sera avec Stéphane Bern. C'est, ah, c'est la liaison, voilà. Bon. Oh là 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 là. Allez, à tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Il est grand temps de vous emmener au cinéma maintenant. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
On parle d'abord des entrées des films sortis la semaine dernière.
Alors que le mois d'octobre a été catastrophique, 15,5% d'entrées en moins. Novembre devrait relever le niveau. D'après nos amis du site cbo.fr, les vacances ont attiré la foule dans les salles. Parmi les nouveautés, je suis ravi, c'est Carbone d'Olivia Marshall qui s'en tire le mieux. 320 000 spectateurs déjà. Gros échec en revanche pour D'après une histoire vraie de Roman Polanski, moins de 60 000 entrées. Pour les continuations, Le Sens de la Fête, ça y est, a franchi la barre des 2 millions. Et demi. Thor Ragnarok approche les 2 millions en 15 jours. Épouse-moi mon pote au seuil du 1,7 million. Gros score pour Philippe Lachaud et ses amis. Et puis le film RTL Au revoir là-haut a maintenant largement dépassé le million.
Alors encore 17 nouveaux films à voir, oui, ce 8 novembre au cinéma. Stéphane, vous avez notamment retenu Tout nous sépare de Thierry Clifford.
Et tout mon intérêt pour cette histoire tragique de famille et d'amitié qui navigue entre industriels du Sud et petites frappes de banlieue, entre chantage et règlement. Tout mon intérêt tient en une révélation, le rappeur Nekfeu. C'est sa première apparition à l'écran. Pour le reste, je n'ai pas du tout été convaincu par le film de Thierry Clifa. J'avais beaucoup aimé Bus Palladium ou Le héros de la famille, qui était d'excellents films. Là, à mon avis, c'est un petit peu perdu dans le thriller, un genre qui lui convient moins. Mais Nekfeu bouffe l'écran entre charme et animalité. C'est lui qui marque le spectateur, malgré la présence au générique de Catherine Deneuve, Diane Kruger ou Nicolas Duvauchel, acteur confirmé. Nekfeu, pourtant, a douté durant le tournage.
Je me sens tellement mal. Tout le monde était super sympa, donc je me demandais juste à quel moment on allait se rendre compte de mon imposture en tant qu'acteur. Et au final, il y a un moment où on se pose plus de questions. La première scène que j'ai jouée, je rentre dans le bureau de Catherine Deneuve pour la menacer. Je la connais à peine, on s'est vu rapidement pour des lectures et des dîners. Je dois vraiment la menacer, presque physiquement. pour moi, les situations où je me retrouve en train de menacer quelqu'un et de rentrer dans un espace de violence sont des situations ponctuelles et voire passées. et surtout pas avec une femme et Catherine Deneuve, en l'occurrence. Donc ouais, c'était dur, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait pas de ça, qu'il s'agissait d'être le plus juste possible. J'étais encouragé par Catherine Deneuve et rassuré par toute l'équipe, donc c'était vraiment mortel.
Nekfeu, depuis, a tourné un deuxième film, L'Échappée, et il devrait être au générique du prochain Diane Curie.
L'imposture continue.
De Fanny Ardant, mais c'est une belle imposture, je vous le confirme. Je vous rappelle aussi la sortie ce mercredi de Jalouse, excellent deuxième film des frères Foenkinos, David et Stéphane, avec une Karine Viard impressionnante en dépressive, basculant dans la méchanceté tous azimuts. Notez aussi La Mélodie de Rachid Hami, avec un Kadmerad surprenant, émouvant, dans la peau d'un prof de violon désabusé, aux méthodes trop rigides, qui va découvrir la réalité de l'enseignement artistique dans un collège difficile avant que ses jeunes élèves ne le changent lui aussi. Pas complètement convaincu, mais assez touché par ses choristes version banlieue.
Bon, alors avez-vous été plus convaincu par Prendre le large de Gaël Morel ?
Oui, parce que le film de réalisateur du comédien révélé dans Les Roseaux Sauvages de Téchiné, on s'en souvient, aborde une thématique intéressante, celle des délocalisations. Alors, c'est l'histoire d'Edith, ouvrière textile, 45 ans. Son usine est transférée au Maroc. Il y a deux choix pour elle. Soit partir avec ses indemnités, soit suivre l'entreprise à Tanger. C'est cette voie qu'elle va choisir, devenant d'un coup une étrangère sans point de repère, qui doit en plus gérer à distance sa relation tendue avec son fils. Film imparfait, autant le dire, mais émouvant, porté par une Sandrine Bonner à fleur de peau. Il faut dire que le sujet la touche personnellement.
C'est quand même un univers que, mine de rien, je connais, puisque je viens d'un milieu populaire, j'avais un père ouvrier. Et puis elle, heureusement qu'elle n'a pas un enfant en bas âge, un mari qui travaille à tel endroit, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, effectivement. Elle, ça tombe bien, elle peut partir, elle est malgré tout assez libre. Mais pour des familles, il y a plein de gens pour qui c'est pas possible. Donc après, ok, il y a des indemnités, mais jusqu'à quand ? Ouais, c'est des sujets qui m'importent. Et puis moi, je suis confrontée à ça dans ma famille. J'ai des frangines ou même des frangins qui parfois n'ont pas toujours du boulot. J'ai un beau-frère qui a été licencié plein de fois, licenciement économique. Et c'est de vraies questions. Ça fait des perturbations de vie financière et du coup sociale.
Sandrine Bonner, donc à l'affiche de Prendre le large de Gaël Morel.
Pour terminer, Stéphane, quelques autres sorties, en bref.
Ah bah oui. Ça, c'est la vraie balle de match de la vraie rencontre au sommet Borg-McEnroe à Wimbledon en 1980. Borg-McEnroe, c'est aussi un film d'1h48 qui nous apprend, on ne s'y attendait pas du tout, que le Suédois était un roc impassible et l'Américain un volcan en fusion. C'est dingue, non, ce qu'on apprend au cinéma. Mieux vaut revoir le match d'anthologie, lui. Enfin, je vous signale Beautiful Day de Lynn Ramsey, thriller noir de chez Noir, suivant les pas sanglants d'un nettoyeur engagé pour retrouver la fille d'un sénateur. Film impressionnant dans sa violence, attention, c'est interdit au moins de 12 ans, avec avertissement, mais gâché pour moi par un Joaquin Phoenix qui en fait des kilotonnes dans le genre martyr psychotique. Sa performance, si je puis dire, a été récompensée pourtant par le prix d'interprétation en mai dernier à Cannes.
Voilà pour les sorties de ce 8 novembre. Place à notre cadeau. Nous vous offrons ce matin des coffrets Warner contenant 9 films de Tim Burton, de Batman à Charlie et la Chocolaterie, en passant par Mars Attack et Beetlejuice. Vous, pour gagner, il faut répondre à la question que vous pose Stéphane.
Qui est l'acteur fétiche de Tim Burton, à l'affiche justement de Charlie et la Chocolaterie et de 6 autres films comme Ed Wood ou Sleepy Hollow ?
C'est bien, pour une fois, on pose une vraie question. Ah oui, ça le mérite, parce que c'est un coffret. Réponse au 3210. Réponse au 3210. A tout de suite. On part au Louvre Abu Dhabi avec ma camarade Monique Younes.
Bernard, je peux prendre ta place ?
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h20, tout rond. Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez des Émirats Arabes Unis, où est attendu ce soir le président Emmanuel Macron, pour l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, que vous avez visité en avant-première, et vous m'avez dit tout simplement chef-d'œuvre.
Mais oui, j'aurais adoré critiquer, énumérer tout ce qui ne va pas, mais que voulez-vous, ce lieu m'a rendue heureuse, je ne vais pas le cacher. Et en repartant, j'avais juste envie de revenir pour voir la prochaine exposition.
Enfin, vous êtes quand même tapé 7 heures d'avion.
Ben oui, c'est un peu le problème. Alors je vais donc me contenter du souvenir de ce palais lacustre, son vaste patio, protégé du soleil par un dôme géant et rafraîchi par les eaux du golfe qui sont littéralement là, Yves, à vos pieds. Culture Nouvelle réalise avec le Louvre à Abu Dhabi un coup de maître, sans doute sa plus belle, en tout cas la plus importante de ses œuvres. L'immense ombrelle de 7800 tonnes créée sur sa piazza, elle crée un microclimat venteux, très agréable, et des jeux de lumière magiques. Si l'art est l'expression la plus élaborée de la beauté, celle-ci commence par le bâtiment qui l'abrite, et Jean Nouvel le sait.
Même si on prévoit les choses, quand on joue avec la lumière, il y a plus de complexité que ce qu'on peut imaginer en soi. Un bâtiment comme ça, il y a tellement d'endroits, tellement de profondeur dans les vues, donc on ne peut pas avoir en tête tous les assemblages, toutes les incidences de lumière. Donc effectivement, on découvre des choses. À la fois, on n'est pas surpris, mais on est bien content de le voir.
Alors, mais pour bien mesurer la dimension palatiale du musée, il faut quitter la piazza et entrer dans les galeries, découvrir les œuvres. Et là, dès la première salle, le ton est donné. Sur le sol en marbre est reproduit un portulan, vous savez, cette carte de navigation utilisée du XIIIe au XVIIe siècle pour repérer les ports. On marche sur l'histoire. On foule l'histoire de l'art. Le nom des villes d'où proviennent les œuvres exposées sont inscrits au sol et en levant les yeux, on découvre trois masques funéraires en or, chinois, précolombiens, grecs, trois chevaux, trois figures de priants, trois carafes d'époque et d'origine opposées, mais qui ont toutes les trois, c'est ça ce qui est universel, servi à transporter de l'eau.
Donc ce musée est un voyage dans les cultures du monde, en fait.
Et présenté d'une manière thématique par le directeur scientifique Jean-François Charnier, qui a choisi, par exemple, pour montrer la modernité, de mettre face à face des tableaux impressionnistes avec des sculptures africaines de la même époque.
Ce que je voulais absolument, c'est qu'on ait d'abord une émotion sur ces peintres de la modernité européenne, Monet, Cézanne, Van Gogh, Manet, mais également de permettre de découvrir des œuvres contemporaines d'autres mondes et dans une autre esthétique. Et en fait, la beauté, l'émotion qu'on retrouve sur les impressionnistes, on la retrouve également sur la sculpture africaine. Ce que j'aime aussi, c'est de penser que ces statues africaines regardent ces tableaux et voient le monde qui vient à elles. Et
l'idée est plaisante. Alors, combien d'œuvres sont présentées ?
600. Alors, 300 qui ont été achetées par les Émiriens pour le Louvre à Abu Dhabi, qui aura donc sa propre collection, et 300 autres sont prêtées par les musées français pour 10 ans. Et même si certaines de ces œuvres sont connues et reconnues, qu'on les a vues maintes fois, par exemple, au Louvre, comme la belle ferronnière de Léonard de Vinci, eh bien, on les redécouvre à Abu Dhabi, notamment grâce à une scénographie somptueuse, des vitrines qui sont en elles-mêmes des œuvres époustouflantes. Je ne sais pas si on peut appeler ça des vitrines, d'ailleurs. Le verre est tellement transparent qu'il les rend virtuels. Donc j'ai demandé au muséographe Renaud Pierrard, mais comment elles s'ouvraient pour ce qu'on ne voit ni les angles ni les bases?
Bah oui.
C'est la magie, madame. Donc là, vous avez une des vitrines les plus grandes, totalement transparente. Elle fait, elle aussi, 2,40 m de long, 6 mètres de long. Et elle s'ouvre en deux parties, comme ça, comme des glaçons qui se coulissent. Tout le mécanisme est dans la base, que vous ne voyez pas. C'est extrêmement précis et rigoureux. Il y a aujourd'hui deux entreprises qui savent faire ça au monde. Pas trois.
Le raffinement atteint dans les salles et croyez-moi sans égal, du sol au plafond, aucun détail n'est laissé au hasard. Même les pièces, imaginez-vous, de monnaie grecque, grecque-romaine, ottomane, qui ont toujours été un cauchemar pour les commissaires d'exposition, sont ici exposées comme jamais par Renaud Pierrard.
Le conservateur m'avait dit, mais les monnaies, en fait, c'est là qu'apparaît la première fois la diffusion du portrait du prince. Donc c'est important que le public comprenne cette diffusion de l'image. Et comme vous pouvez le voir, dans cette vitrine, qui fait plus de 5 mètres de long, les monnaies sont comme en suspension. On voit à la fois la face avant et la face arrière. Et elles se multiplient à l'infini par un jeu de miroirs. C'est comme un tsunami qui arrive, qui est un flot de monnaies.
Ils savent nous en parler. Alors, quel détail a le plus attiré votre œil, Monique ?
Alors, Jean Nouvel a imaginé pour chaque salle, chaque étape, des ouvertures qui permettent, entre une Vierge à l'enfant du 15e, un mobile de Calder, d'apercevoir tantôt la mer, le ciel, une fontaine ottomane, une citation de Montaigne gravée dans le marbre, mais aussi des grues du port ou des extravagances tours d'Abu Dhabi qui se dressent au loin. Et croyez-moi que ce contact avec l'extérieur démultiplie l'émotion ressentie.
Est-ce que l'universalité de ce musée a réussi à intégrer des œuvres contemporaines ?
Mais évidemment, Jean-Luc Martinez et Jean-François Charnier ont même commandé à plusieurs artistes contemporains des œuvres. L'Italien Giuseppe Pennone, qui a rendu hommage à sa façon à l'universalité de l'art, j'y arrive. Il a créé un triptyque composé d'un arbre en bronze, d'une sorte de nuancier de toutes les terres du monde et d'une gigantesque roue en céramique ayant en son centre l'empreinte du pouce de Sheikh Zayed, le fondateur des Émirats Arabes Unis.
Une œuvre en lien avec le lieu, dans l'esprit qui est l'esprit de Cheikh Zayed. Parce que tout ce qu'on voit, ça n'existait pas avant lui. Et il a créé une nation sans guerre. Ça, c'est une chose extraordinaire. D'habitude, c'est traumatique, la création d'une nation. Là, il est arrivé à faire ça. Et j'ai fait un travail en partant d'une empreinte de son pouce. Et alors, dans cette idée de propagation d'une pensée dans le monde.
Cheikh Zayed laisse donc son empreinte au propre comme au figuré, cette dernière. Et c'est derrière l'œuvre de Pennone qu'Emmanuel Macron, accompagné d'une dizaine de chefs d'État, assistera ce soir à la cérémonie d'ouverture du Louvre à Abu Dhabi. Et quand les acrobates danseront sur l'eau, comme il est prévu, quand le dôme du Louvre illuminera tout Abu Dhabi, notre président se sentira fier, à la place de tous les Français qui ne pourront pas y être. Fier qu'un musée comme celui-ci porte ce nom de Louvre, dont on ne connaît toujours pas l'origine. C'était peut-être un nom d'origine arabe. Allez savoir, ils sont tellement nombreux.
Monique Younes.
9h26.
Julien Courbet avec nous dans très exactement 3 minutes 30.
Vous rêvez d'agrandir votre maison, de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine, alors pensez Rénoval. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'offre Noël à prix cadeau chez Rénoval, le premier réseau national de véranda et abri de piscine, voire modalité en magasin ou sur rénoval.com. Rénoval, la véranda attitude.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Cher Stéphane, qui est l'acteur fétiche de Tim Burton, à l'affiche justement de Charlie et la chocolaterie et de 6 autres films de réalisateurs comme Ed Wood, Dark Shadows ou Sleepy Hollow?
Johnny Depp.
Johnny Depp, très bien. Donc si vous nous avez appelé au 3210, eh bien vous avez gagné un magnifique coffret Warner où l'on retrouve une bonne partie de ces films, dont Beetlejuice, ouais. Batman, Mars Attack, enfin, bref, tout ce qu'on aime. Merci à toute l'équipe et nous retrouvons maintenant Julien Courbet.
Qui va enchaîner, évidemment, oui. Parce qu'il faut aider ceux qui vous écoutent aussi, Yves Calvi.
Mais bien sûr.
J'ai pas pu préparer de petites blagues sur votre matinale. Pour être très honnête, à titre exceptionnel, je n'ai pas pu l'écouter ce matin.
Bravo.
Voilà. Ben, votre femme ne voulait pas écouter la radio ce matin. J'ai dit, écoute, bon, voilà.
Qu'est-ce que c'est que ces rires gras?
Non, dites donc, on a le droit de sourire.
Oh. Il le prend bien. Voilà, bon, oui. Lui au moins, il voit la vie du bon côté.
Voilà. Bah, ça. Non, mais je trouve ça drôle.
Allez, merci beaucoup.
Allez, bonne émission.
Vous écoutez RTL.